9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, on prend soin de votre silhouette. À votre silhouette donc ce matin avec le docteur William Bérébi. Bonjour doc.
Bonjour Philippe.
Gastro-entérologue et hépatologue, porte-parole de la bonne parole microbiotique, et vous publiez Médecine microbiotique, votre nouvelle ordonnance pour être en bonne santé chez Marabout. Si on parle d'ordonnance, ça veut dire quand même que ce sont des prescriptions. Est-ce que les probiotiques, on peut les prendre sans ordonnance, et est-ce qu'il y aurait des contre-indications à les prendre?
Alors non, il n'y a aucune contre-indication à les prendre. C'est des compléments alimentaires, en fait, c'est des ferments lactiques. Donc, c'est des bactéries vivantes que vous allez ingérer sous forme de gélules. Ces gélules vont avoir pour fonction de corriger une dysbiose. C'est le fameux terme, ça veut dire le déséquilibre du microbiote intestinal qui va occasionner différentes pathologies. Ça peut être des pathologies intestinales, comme l'intestin irritable. Ça peut être des pathologies de poids, comme l'obésité. Ça peut être des pathologies psychologiques, comme le stress ou l'anxiété, par exemple. Et donc, ces compléments alimentaires qui sont en vente libre et qu'on peut donc acheter sans ordonnance permettent de corriger ces différents troubles.
Alors, récemment, les découvertes qu'on a faites sur le microbiote ont prouvé que les microbiotes de ceux qui étaient en surpoids n'étaient pas les mêmes que ceux qui n'étaient pas. Quoi la différence?
Alors, en fait, les patients en surpoids ou en obésité vont avoir un microbiote qui va être moins varié, donc une moins grande variété d'espèces, et un ratio entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries qui va être déséquilibré dans le sens des mauvaises bactéries. Cette dysbiose spécifique, il faut bien comprendre que dans chaque pathologie, c'est pas le même déséquilibre. On va avoir un certain déséquilibre dans l'obésité, un autre dans les problèmes psychologiques, un autre dans l'intestin irritable, etc., etc. Donc chaque pathologie a un déséquilibre particulier, spécifique.
Mais qu'on arrive aujourd'hui à analyser, on arrive à savoir, avec l'analyse d'un microbiote, de quoi la personne souffre.
Alors, l'étude du microbiote fécal, comme j'ai eu l'occasion de le dire, sert à rien, puisque ce sont des études qui sont faites par des labos ou par des start-up qui commercialisent en fait un produit qui n'est pas standardisé. Pas standardisé, ça veut dire pas reproductible et donc pas fiable. Donc ça coûte des centaines d'euros et ça sert strictement à rien. Donc ça, faut l'avoir à l'esprit. Dans quelques années, ce sera un test fiable. Nous ferons, les sociétés savantes, des demandes de remboursement auprès de l'assurance maladie, et ce sera remboursé comme n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est pas le cas, donc c'est pas la peine de le faire. En revanche, ce qu'on sait, c'est que pour différentes pathologies, vous avez un déséquilibre du microbiote, donc une dysbiose spécifique. Ensuite, lorsqu'on sait qu'il y a une dysbiose, les chercheurs vont étudier différents probiotiques, donc des compléments alimentaires probiotiques, qui vont évaluer l'efficacité dans telle ou telle pathologie. Et quand on a ces publications-là, quand je les reçois, je les collige, je vois qu'il y a des bonnes publications avec beaucoup de monde, beaucoup de personnes incluses, donc des centaines, randomisées, double aveugle, et là je vois que c'est une étude pertinente. Et à ce moment-là, je me dis, c'est bon, ce probiotique-là, je peux l'utiliser dans telle ou telle pathologie. Et c'est ce que je fais en pratique depuis des années. Et ce qui m'a conduit à écrire ce livre, Médecine microbiotique.
Donc, pour qu'on comprenne bien, chacun d'entre nous a un microbiote différent. D'accord? Donc, qu'on soit mince, gros ou obèse.
Tout à fait.
On a tous des bactéries qui sont différentes.
1000 espèces environ, dans l'ensemble des humains.
D'accord. Est-ce qu'en fonction du microbiote, de notre microbiote, on réagit différemment quand on absorbe un aliment?
Oui, bien sûr. Alors, ça va dépendre de microbiote de départ. Le microbiote de départ, d'accord, à la naissance, on hérite du microbiote de la mère. S'il est bon, on hérite d'un bon microbiote, donc c'est tout gagné. S'il est mauvais, on hérite d'un mauvais microbiote. Après, il y a ce qui va se passer dans les premières années de la vie, c'est-à-dire notamment la prise d'antibiotiques, ça veut dire l'alimentation, etc. Et puis vers 3-4 ans, on a un microbiote à peu près définitif, à peu près, qui va se moduler ensuite. L'alimentation va jouer énormément. C'est-à-dire que si on mange bien, et ça j'insiste sans arrêt, puisque dans la médecine microbiotique, il y a deux volets. Il y a le volet curatif, c'est-à-dire prendre les bonnes souches, valider, et il y a le côté préventif, qui s'applique à tout le monde, en fait. Et la prévention, pour garder une barrière intestinale parfaitement imperméable et éviter que les toxiques ne passent, donc les toxiques, c'est certaines bactéries pathogènes, mais c'est aussi la pollution alimentaire, les métaux lourds, les pesticides, etc., on a besoin d'avoir un microbiote performant. Et pour qu'il soit performant, il faut manger des prébiotiques. Les prébiotiques, ce sont donc des fibres dont se nourrissent nos bactéries. Elles se régalent avec ça. Et plus vous mangez de fibres, plus les bactéries sont en forme et vont être capables de nous défendre. Donc les fibres, c'est, on les trouve où ? Dans les légumes, dans les fruits, dans les légumineuses et dans les céréales complètes.
Alors quand on dit manger des fibres, est-ce qu'on a une idée de combien il faudra en consommer par jour ?
Bien sûr. Alors les chiffres, c'est 25 à 30 grammes de fibres par jour. Alors ça veut dire quoi ? En décryptage, ça veut dire environ, voilà, parce que 25 à 30 grammes, c'est vague. C'est 100 grammes de crudité, 100 grammes à 150 grammes de légumes cuits, type haricots verts. C'est deux fois par semaine des légumineuses, du pain complet et deux fruits. Du pain complet, ouais, pain de seigle, pain complet, puisque là, vous avez des fibres hein, dans tout ce qui est complet, dans les céréales complètes. Et puis, deux fruits par jour, donc deux fruits de 100 grammes chacun, ou un gros fruit de 200 grammes.
Donc,
vous avez votre apport.
Ce qui nourrit nos bonnes bactéries, ce sont les fibres.
Fibres, voilà, alimentaires.
C'est ça. On peut dire qu'en gros, les fibres, ce sont les fruits, les légumes et les légumineuses, c'est ça ?
Voilà, et les céréales complètes. Céréales elles-mêmes ou bien les produits complets. Donc vous les allez les trouver dans le pain complet, le pain de seigle, vous allez le trouver dans les pâtes complètes ou semi-complètes, dans le riz complet, etc.
Comment les bactéries sont-elles impliquées dans le surpoids finalement et dans le fait d'avoir du ventre ?
Alors, dans le surpoids, ce qui va se passer, c'est que ce déséquilibre dont je vous parlais à l'instant va modifier en fait la capacité pour un apport donné d'aliments de stocker. C'est-à-dire que le patient qui a une dysbiose d'obésité, on va dire ça comme ça pour simplifier, eh ben il va stocker beaucoup plus que les autres.
Donc, quel que soit l'aliment, en fait.
Quel que soit l'aliment.
Ouais.
C'est-à-dire, vous prenez 100 grammes, vous allez stocker 30%, par exemple, de plus que quelqu'un qui n'a pas cette dysbiose spécifique. Le deuxième problème qu'il a, c'est que, vous savez, maintenant très bien, depuis que vous vous intéressez au sujet, que le cerveau et l'intestin sont connectés. Et nos bactéries intestinales,
par l'intermédiaire du nerf vague.
Alors, justement, alors là, vous me tendez la perche. Depuis, on a pensé pendant très longtemps, il y a encore même quelques semaines, que ça passait par le nerf vague.
Ah oui, moi, j'ai pas mes fiches. Allez-y, scoop, là.
Et en fait, le scoop, c'est que dans une publication dans Nature, qui est la revue scientifique de référence, les chercheurs se sont aperçus que les bactéries fabriquaient une substance qui s'appelle des muropeptides, qui vont directement dans le cerveau. C'est-à-dire ne passent plus par le nerf vague, par les neurones, ces fameux neurones, et il y a un envoi direct de ces substances directement dans le cerveau. Donc ça, c'est complètement...
Mais passe comment ?
Par le sang.
Ah ouais, par le sang, direct.
L'intestin est communiqué avec votre sang. Quand vous mangez, ça passe dans le sang.
C'est pas parce qu'il est poreux, en fait.
Ah non. C'est pour le coup, c'est la circulation sanguine normale. Et donc, il va fabriquer des substances qui vont être véhiculées directement dans le cerveau.
Neuropeptines.
Des muropeptides.
Muropeptines.
Ça vient de sortir,
plus de nerf vague.
Alors, le nerf vague joue aussi. Ça veut pas dire que le nerf vague n'a pas de rôle. Mais il y a un nouveau moyen de communication qui est pour le coup direct. Avant, c'était indirect puisqu'on passait par le nerf vague. Et là, maintenant, on s'est aperçu qu'en fait, c'est devenu complètement direct et que il y a une voie directe entre notre intestin et notre cerveau. Donc, c'est complètement fascinant.
Alors, comment...
Revenons
sur notre ventre plat.
Et donc, les patients qui ont une dysbiose spécifique de l'obésité, en fait, ils vont pas avoir la sensation de satiété à cause de cette dysbiose. C'est-à-dire que le cerveau va pas être contenté avec une alimentation standard de tout un chacun. Et l'obèse ou la patiente en surpoids va devoir manger plus sucré et plus gras pour rassurer son cerveau, en quelque sorte. Et donc, il va manger plus.
Il y a une hormone spécifique, d'ailleurs, à la satiété.
Oui, la leptine.
La leptine, voilà, c'est ça. C'est ce fameux message que ceux qui ne peuvent pas s'arrêter de manger ne reçoivent pas, en fait.
Voilà. Et donc, ils vont devoir manger plus. Sinon, ils se sentent mal. Ils ont une frustration. Et donc, ils vont devoir manger plus gras et plus sucré pour être bien.
Alors, quelle est la clé du ventre plat ? C'est de faire des abdos tous les jours ou c'est un microbiote en bonne santé ?
Alors, c'est plein de choses, le ventre plat, en fait. Il y a quatre axes principaux. Il y a le gainage classique. Très simplement, une minute de gainage ventral. Tout le monde sait ce que c'est le gainage. Une minute d'arrêt, cinq fois. Donc 5 minutes de gainage par jour.
Ce qui est pas fou quand on y pense.
Ouais. Voilà, c'est pas fou, ouais. Personne le fait ou très peu de gens, parce qu'en fait, bon, il y a un côté fastidieux. Alors moi, ce que je fais pour le faire, je mets de la musique, je mets un morceau que j'aime, qui va durer, ou deux morceaux qui vont durer 5 minutes. Donc du coup, il y a une espèce de réflexe. On est un peu pavloviens tous, les humains, les mammifères. Et donc, ça permet de le faire plus facilement. Donc ça, c'est le gainage. Et puis avant l'été, c'est vrai que tout le monde aime bien quand même avoir un ventre relativement plat. Après, deuxième volet, bah, le poids, évidemment. Si vous êtes en surpoids, évidemment, il faut maigrir. Alors, comment maigrir? Il y a plein d'axes. Il y a évidemment là, il y a trois axes, on va dire, principaux. Il y a l'axe alimentaire, donc bien manger, manger beaucoup de légumes, de fruits, de légumineuses, boire. Il faut aussi manger moins de viande rouge et privilégier les viandes blanches, prendre un peu de poisson, réduire les féculents, hein, c'est-à-dire les pâtes, le riz, le pain. Hein, le pain, je rappelle que le pain, c'est du sucre, hein, et donc, effectivement, si vous mangez beaucoup de pain, même si vous faites attention par ailleurs, vous allez prendre du poids. Avoir un régime donc méditerranéen, hein, c'est le régime classique avec de l'huile d'olive, des légumes, etc.
C'est pas le régime classique, hein, c'est le régime qu'il faudrait adopter. Mais c'est peut-être pas le régime classique de tout le monde.
Non, classique. Ouais, ouais. Je dis le régime méditerranéen classique. C'est pas un nouveau régime méditerranéen. C'est le régime qu'on connaît. Légumes, fruits, huile d'olive, des produits laitiers, un peu de viande blanche, un peu du poisson, et puis moins de féculents. C'est un peu voilà les bases générales du régime méditerranéen. Donc ça, c'est important de le faire. Faire de l'activité physique. Alors ça, c'est une grande source de communication avec les patients, parce qu'effectivement, peu de gens font ce qui est requis. Ce qui est requis, c'est 2h30 par semaine de sport. Donc de sport, de vrai sport, hein. C'est pas travailler, c'est pas marcher beaucoup dans son travail. Ça veut dire faire du vélo, courir, nager, etc. Ou du gainage, hein, tout ce qui est aussi des sports dits de résistance, donc se muscler.
C'est-à-dire que marcher, comme on nous dit tous les jours, faire 10 000 pas par jour, vous le faites rentrer dans le sport ou pas, vous, docteur Bérébi?
Alors, il y a trois catégories, c'est une très bonne question. Vous avez déjà le volet syndrome du canapé. C'est-à-dire que ça, il faut lutter contre, c'est-à-dire passer des heures devant la télé ou devant la console. Donc ça, faut pas. Il faut absolument se déplacer dans la maison, prendre des escaliers, aller se balader, faire ses courses en marchant, etc. Ça, c'est pas le sport, mais c'est de l'hygiène, si vous voulez, de base. Deuxième volet, il y a l'activité physique proprement dite, c'est ce que je viens d'indiquer. Et puis, il y a les personnes qui peuvent pas ou ne veulent pas faire de sport parce qu'ils aiment pas ça, parce qu'ils peuvent pas, etc. Donc là, ce que je conseille, c'est 30 minutes de marche rapide par jour. Alors 30 minutes de marche rapide, c'est pas je vais au travail en marchant, c'est vraiment je mets mes baskets, un survêtement ou un short et je marche vraiment vite. Le critère, si vous voulez, de la qualité et de la perte calorique, c'est je suis essoufflé, je transpire.
Faut transpirer, faut mouiller la chemise. Ouais. Si on mouille pas la chemise,
si vous n'êtes pas essoufflé, vous transpirez pas, c'est que c'est pas une marche rapide suffisante.
Bon, 30 minutes par jour, bon, d'un autre côté, c'est pas. Voilà. C'est pas foufou non plus.
Voilà. C'est une règle de vie finalement, l'activité physique, parce que quand vous en faites, vous allez avoir des bienfaits, bon, immédiats qu'on connaît, hein, la relaxation, etc. Et puis vous allez agir sur votre microbiote. Donc ça, c'est extrêmement important et peu connu. C'est-à-dire que, alors là aussi, c'est complètement incroyable. C'est-à-dire que quand vous faites du sport, vous allez fabriquer, vos bactéries vont se mettre à fabriquer des substances qui s'appellent des postbiotiques, c'est-à-dire c'est des produits produits par nos bonnes bactéries, qu'on appelle acides gras à chaîne courte, peu importe, et ces substances...
Ça, c'est la nouveauté de votre livre, d'ailleurs, hein, les postbiotiques.
Voilà, postbiotiques, donc c'est des substances, pour dire les choses simplement, qui vont agir sur la glycémie, réguler la glycémie, donc faire baisser le taux de sucre, vont agir sur le taux de cholestérol, vont avoir une action anti-inflammatoire générale, vont même avoir une action anticancéreuse. Et donc, et c'est pour ça qu'on sait dans les études, dans des registres, dans des études de l'Institut du cancer, etc., que les personnes qui font une activité physique, eh bien, régulière, vont avoir moins de cancer. Notamment moins de cancer du côlon.
On les achète pas dans le commerce, hein, ces postbiotiques. Encore une fois, ils sont produits par l'organisme.
Alors, ils sont produits par l'organisme. Donc, le mieux, c'est de les produire notamment par le sport. Mais ils existent quand même. Ils sont commercialisés.
Les postbiotiques.
Oui, monsieur. Les postbiotiques existent, notamment du butyrate qu'on trouve en gélule.
Bien, justement, on parle de biotique, j'allais dire. Votre livre, votre nouvelle livre s'appelle « Médecine microbiotique, votre nouvelle ordonnance pour être en bonne santé chez Marabout ». Et vous nous donnerez quand même tout à l'heure votre ordonnance pour avoir un ventre plat.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Je vous le disais tout à l'heure, à votre silhouette ce matin, ventre apaisé, ventre plat, avec le docteur William Bérébi, gastro-entérologue et hépatologue, porte-parole de la bonne parole microbiotique. D'ailleurs, votre nouveau livre s'appelle « Médecine microbiotique, votre nouvelle ordonnance pour être en bonne santé » chez Marabout, que vous montrez à la caméra puisque l'émission est filmée. Je vous parlais de votre ordonnance. Donc effectivement, pour ceux qui nous écoutent et qui disent « voilà, docteur, je voudrais avoir un ventre plat », qu'est-ce qui pourrait m'aider? Quels sont les probiotiques qui pourraient m'aider?
Alors, la première chose, c'est donc de maigrir. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va aider le patient encore plus avec des probiotiques, justement. Il y a des probiotiques qui s'appellent Aphnia alvei. C'est une souche particulière de bactéries qui a comme caractéristique de modifier le métabolisme. C'est-à-dire qu'elle va abaisser, justement, la capacité de stockage. C'est-à-dire que pour... C'est le problème de la prise de poids, hein, d'une façon générale. Il y a trop de stockage. Et ben, cette bactérie va réguler ça et faire en sorte que vous stockiez moins de calories pour un apport équivalent. Et puis, ça va avoir une action sur le cerveau avec cette fameuse satiété et l'amélioration caractéristique du microbiote intestinal, donc de cette dysbiose, ce déséquilibre, par cette bactérie va améliorer la communication entre l'intestin et le cerveau. Et
ça, donc, on en prend combien de temps?
Alors, 3 mois. Faut prendre ça pendant 12 semaines. 2 gélules par jour. Et les patients, en général, perdent entre 5 et 6 kilos.
C'est pas mal, ça.
Voilà. Alors, mais, associé au reste, évidemment, il ne s'agit pas de manger n'importe quoi.
D'accord. On prend pas que les gélules pour perdre du poids.
Si vous mangez des gélules et que vous mangez une raclette tous les jours, ça va pas aller. Ou un couscous. Donc, il faut aussi manger beaucoup de légumes, de fruits, etc. Beaucoup de prébiotiques. Hein, donc, ces fameux aliments qui nourrissent, en fait, nos bonnes bactéries.
Puisqu'on en est, dans le vocabulaire, hein, donc, il y a les prébiotiques, donc vous avez parlé.
Les fibres alimentaires.
Hein, d'accord, il y a les probiotiques.
Et après, c'est les bactéries vivantes.
Il y a les postbiotiques.
Qui sont fabriquées par les bactéries, par nos bonnes bactéries intestinales. Donc des substances qui ont différentes vertus, notamment anti-inflammatoires, et qu'on peut trouver aussi sous forme de gélules.
Et il y a de nouvelles catégories qu'on a dans votre livre, c'est ce qu'on appelle les psychobiotiques.
Voilà. Alors les psychobiotiques, c'est la dénomination de tous les biotiques qui agissent sur le cerveau. Donc, les probiotiques, donc les bactéries vivantes elles-mêmes, et les prébiotiques. Les prébiotiques, donc les légumes, les fruits, font partie des psychobiotiques. Ce qui fait que, on sait, donc maintenant on le sait par le nerf vague, mais on sait maintenant qu'il y a un lien direct entre l'intestin et le cerveau, eh bien, d'une façon tout à fait étonnante, lorsque vous avez une dysbiose, donc un déséquilibre, eh bien, vous allez avoir vos bactéries qui vont plus fabriquer normalement les choses, notamment la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, qui va avoir un taux abaissé. Vous allez fabriquer plus de cortisol, qui est l'hormone du stress. Vous allez fabriquer moins de GABA, etc. Donc, de différentes substances.
Enfin, les GABA, on les connaît encore mal, les GABA.
Voilà. Mais on sait que globalement, il y a quand même une interaction aussi à ce niveau-là.
Mais les GABA, elles servent à quoi?
Elles servent à juguler l'anxiété, en fait. Donc, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a les catécholamines, etc. Donc, vous avez plein de substances qui sont modifiées si vous avez un déséquilibre. Et ça va agir sur le cerveau d'une façon directe et générer, pour le coup, du stress, de l'anxiété, des troubles de l'humeur. D'ailleurs, on sait que, pour aller un peu plus loin, il y a des maladies dont on sait qu'elles sont sous le contrôle d'une dysbiose, comme la maladie d'Alzheimer, par exemple. Hein? On retrouve, il y a une signature, si vous voulez, microbiotique. De toute façon, comme je l'ai dit, la révolution du 21e siècle médical, c'est la médecine microbiotique. Ça, c'est clair. Vous allez voir que plus les années vont passer, plus il va y avoir des découvertes tout à fait spectaculaires. Et donc, on sait que les patients qui développent une maladie d'Alzheimer ont un profil microbiotique caractéristique. C'est-à-dire qu'on peut dire... On prend le microbiote donc dans un laboratoire de recherche, il faut que ce soit fait dans des structures extrêmement fiables, eh bien, on est en capacité de dire que ce patient-là a plus de risques de développer une maladie d'Alzheimer.
Oui, parce que les maladies d'Alzheimer, ce sont des maladies qui sont évolutives sur plusieurs dizaines d'années. Donc, il suffirait peut-être d'analyser le microbiote, on va dire 10 ou 20 ans avant, et de pouvoir en changer la composition.
Voilà.
Est-ce que ça aurait un sens, par exemple ?
Mais c'est complètement un sens. Les chercheurs travaillent en ce sens. Pour l'instant, ça n'existe malheureusement pas. Mais la révolution médicale du 21e siècle, dont je parle, ça va être ça. C'est-à-dire que dans quelques années, ou quelques dizaines d'années, c'est impossible de le dire à ce stade, on va étudier le microbiote de chacun et on va être en mesure de prévoir le risque de maladie d'Alzheimer, le risque de cancer du côlon, etc. Et donc d'agir sur le microbiote pour éviter la survenue de ces pathologies-là. C'est vrai aussi pour le diabète, c'est vrai pour l'obésité, etc. Et donc ça, ça va être l'axe de révolution médicale du 21e siècle.
Revenons à notre ventre, et je pense à ceux qui se plaignent à la fin d'un repas d'avoir un ventre gonflé, parfois qui pourrait ressembler au ventre d'une femme enceinte, hein, subitement, alors qu'ils avaient le ventre plat avant d'aller de se mettre à table. Alors comment on l'explique et finalement comment est-ce qu'on peut lutter contre ça?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fibres, ces fameuses fibres dont on a besoin, qui nourrissent nos bonnes bactéries, elles sont pas digérées par l'intestin grêle. Donc elles vont arriver dans le côlon et dans le côlon elles vont être fermentées.
Parce qu'elles ne peuvent pas être.
Elles ne peuvent pas l'être
digérées par l'intestin. C'est ça qu'il faut comprendre.
Exactement.
Ouais.
Elles sont non digestibles, comme on dit. Et donc elles arrivent, ça c'est normal.
Donc directement sur le côlon.
Directement dans le côlon. Elles ont évidemment été un petit peu modifiées par l'estomac, par les cycles urétriques, etc. Mais grosso modo, elles arrivent presque intactes, on va dire, au niveau du côlon. Et dans le côlon, bah, nos bactéries de notre microbiote, elles vont faire leur travail. Elles vont dégrader justement ces fibres. Et en dégradant ces fibres, elles vont libérer des gaz. Donc du méthane, de l'hydrogène, du sulfure d'hydrogène, etc. Alors, chez quelqu'un lambda, on va dire, il va rien se passer. Il va avoir un P ou deux dans la journée, et encore, ou des pets qui ne... On pète, hein, vous savez.
Peut-être. Ah bon? Alors là, docteur Bérébi, là, vraiment, merci. C'est le deuxième scoop de la matinée.
On pète toute la journée, en fait, mais des petits volumes, et donc on ne s'en rend pas compte.
Hein, mais en fait, les voisins s'en rendent compte, peut-être.
Pas nécessairement, ça dépend de ce que c'est. Sulfure d'hydrogène, ça sent. Mais le méthane moins, etc. Donc, mais il y a plein de petites évacuations, puisque bon, il y a plein d'air quand même dans le côlon. Donc on en évacue. Mais chez certaines personnes qui ont un microbiote particulier, ils vont fabriquer beaucoup, beaucoup de gaz. Et du coup, ils vont avoir effectivement ce fameux ventre qui va gonfler.
Ouais, qui gonfle.
Et beaucoup de paix.
Alors ça, c'est super inconfortable en plus.
Ah bah, moi je vois, les patientes viennent avec des photos. Avec de ventre effectivement extrêmement spectaculaire, quoi, hein, effectivement, comme vous dites, de femmes enceintes de plusieurs mois. Alors, ça peut être deux pathologies principales, si vous voulez. Le syndrome de l'intestin irritable, qui est cette pathologie qui associe donc des douleurs, des problèmes de transit et des ballonnements. Et ça peut être aussi le SIBO, qui est une pathologie voisine, mais quand même très différente, puisque dans le SIBO, on a une pullulation de bactéries qui se fait dans l'intestin grêle. La particularité. Et donc, à ce moment-là, les patientes gonflent énormément également. Voilà les deux, si vous voulez, pathologies.
Pourtant, dans le SIBO, les personnes se plaignent d'avoir beaucoup de gaz. Hein. C'est pas des personnes qui dégazent pas.
Bien sûr,
oui.
C'est ce que je vous dis. C'est que le SIBO, vous avez une pullulation bactérienne dans l'intestin grêle, qui est très importante, et les personnes, elles vont avoir un gros ventre, avec beaucoup de gaz. Alors la différence entre les deux, c'est que dans le SIBO, vous n'allez pas avoir nécessairement de douleur au ventre, ni de problème de transit. Ça peut être juste des ballonnements et des pets isolés. Hein. Et la particularité du SIBO, c'est que, contrairement à l'intestin irritable, qui est très grandement amélioré par les probiotiques, eh bien dans le SIBO, les probiotiques n'ont pas d'effet. Parce que déjà, il y a trop de bactéries. Donc si on en apporte encore, eh bien évidemment, le patient est moins bien. Et à contrario, le traitement va reposer sur moins de fibres et sur certains antibiotiques très particuliers qui agissent et qui vont réduire. Le but, si vous voulez, dans le SIBO, ça va être d'appauvrir en fait la flore, paradoxalement, contrairement à l'intestin irritable.
Ouais. Donc, mais est-ce que dans ces cas-là, il ne faudrait pas, alors je ne sais pas, mais réduire la quantité de fibres qu'on absorbe?
Tout à fait. Donc dans l'axe, si vous voulez, quand je prends en charge une patiente SIBO, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire son alimentation en fibres, Donc, je vais lui demander de supprimer les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes et de consommer beaucoup de protéines. Donc, animal, donc viande, poisson.
Mais paradoxalement, ça appauvrit son microbiote.
Voilà, ça va appauvrir le microbiote puisque les bactéries, du coup, n'ont plus à manger. Donc, se multiplient moins et ça va aider le patient. Et parallèlement, souvent, ça suffit pas, en fait. Et il faut utiliser un antibiotique particulier qu'on ne peut d'ailleurs acheter qu'en pharmacie centrale. C'est-à-dire que la particularité de cet antibiotique, c'est qu'il n'est pas disponible en officine. Parce que la seule indication qui a été validée en AMM, vous savez, c'est cette fameuse autorisation de mise sur le marché, c'est la cirrhose du foie et l'encéphalopathie hépatique, puisqu'il s'agit sur le cerveau aussi. Et, moralité de l'histoire, eh bien, vous pouvez vous les procurer que sur prescription médicale en pharmacie centrale hospitalière.
Le microbiote et un microbiote équilibré, donc, est synonyme de ventre plat.
Oui, tout à fait.
C'est ça qu'il faut comprendre.
Exactement. Oui.
Vous venez de parler à l'instant des antibiotiques qui ne sont pas les amis du microbiote.
Non,
du coup.
Absolument.
Est-ce que les antibiotiques font disparaître, on va dire, certaines catégories de bactéries définitivement?
Alors, oui, ça peut arriver. Alors, déjà, il faut dire une chose, c'est qu'effectivement, les antibiotiques, indispensables par ailleurs, vont détruire une partie des bonnes bactéries. Ils vont aller cibler évidemment le mieux possible les bactéries pathogènes qui sont responsables de l'infection, mais aussi en dégâts collatéraux, ça va abîmer les bonnes bactéries. C'est pour ça que je préconise toujours avec la prise d'antibiotiques d'utiliser un probiotique type Ultralvure, Saccharomyces boulardii, c'est son nom scientifique, pour justement réduire l'impact des antibiotiques sur les bonnes bactéries. Ça, c'est la première chose. A fortiori, s'il y a des antibiotiques qui sont pris d'une façon répétée pour des infections récidivantes. Si le microbiote, au départ, il est un peu déséquilibré déjà, et que vous rajoutez des antibiotiques plusieurs fois, ça peut aboutir au développement d'infections particulières, parce qu'effectivement, dans ce cas de figure-là, les antibiotiques vont un peu décimer les bonnes bactéries, et il y a une bactérie particulière qui peut prendre le dessus, et qui peut donner à ce moment-là un tableau digestif avec une infection digestive. Voilà. Donc le paradoxe, c'est que si vous voulez, les antibiotiques qui tuent les bactéries peuvent finalement cibler le développement d'une catégorie de bactéries, justement en désorganisant en fait l'équilibre de ce fameux microbiote.
Mais est-ce que prendre de la levure, comme vous le disiez, l'ultra-levure, comme ça, ça nourrirait de façon, on va dire, régulière les bactéries?
Alors, non, si vous n'avez pas de problème de santé.
D'accord, donc il ne faut pas les prendre comme ça en indication pour nourrir les bactéries.
Non, il faut bien comprendre une chose, c'est que dans la médecine microbiotique, il y a deux axes, il y a la prévention et le curatif. Le curatif, c'est j'ai un problème donné, je sais qu'il y a une publication ou plusieurs qui ont montré l'efficacité dans telle ou telle situation, et je prends le probiotique adapté, c'est-à-dire les bactéries vivantes en gélule. Par contre, pour équilibrer le microbiote, la solution est très simple, c'est l'alimentation. C'est les fameux prébiotiques. C'est-à-dire, c'est ce que vous allez donner à votre microbiote, donc des légumes, des fruits, des légumineuses, des céréales complètes, qui va faire qu'il va être en bonne santé et en capacité de lutter. Si à l'inverse, vous consommez trop d'alcool, vous fumez, vous mangez gras et trop sucré, eh bien, votre microbiote, vous allez le déséquilibrer. Donc, la base chez tout le monde, et là, c'est l'ensemble de la population, c'est de manger sainement avec des bons produits et des fibres.
Voilà, et je rappelle, docteur Bérébi, que vous publiez Médecine microbiotique, c'est votre passion, ça, votre nouvelle ordonnance pour être en bonne santé. L'éditeur, c'est Marabout, vous êtes notre invité jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, je suis en guerre avec le docteur William Bérébi. Voilà, moi j'ai froid, lui il a chaud. Voilà, c'est ça. Anticlim, doc. Anticlim.
Ah bah oui, anticlim. Anticlim. C'est pour ça que je vous ai demandé d'ouvrir la fenêtre.
Ouais, voilà. C'est le moment. Docteur William Bérébi est avec nous à l'occasion de la publication de Médecine microbiotique. C'est votre nouveau livre et c'est votre nouvelle ordonnance pour être en bonne santé chez Marabout. Vous me parliez tout à l'heure d'une souche de probiotiques pour la Covid. Vous l'avez trouvée où, cette souche? Parce qu'il y a un rapport avec l'intestin irritable, dont on parlait tout à l'heure, avec le syndrome de l'intestin irritable. C'est pour ça que je vous en parle.
Bien sûr. Alors, on sait, dans la Covid, pour dire quelques mots, on sait qu'il y a aussi, comme dans toutes les pathologies, en fait, il faut comprendre que le microbiote, il régule toute notre santé et qu'en fait, tous les problèmes de santé qui existent correspondent à un déséquilibre à un moment donné du microbiote intestinal. On sait que les patients qui vont en réanimation ou qui ont des formes graves, eh bien, ils ont un microbiote particulier, ils ont une dysbiose, donc un déséquilibre du microbiote. Donc ça, c'est avéré depuis le début de la pandémie.
D'ailleurs, les Chinois, au début, faisaient des tests sur les intestins. Alors, c'est passé complètement à l'as, on n'en parle plus du tout, mais on parlait aujourd'hui, au début, du virus qui se fixait sur les intestins.
Ah oui, bien sûr. C'est toujours le cas. Hein.
Mais on n'en parle plus de ça.
On n'en parle plus.
On parle des poumons.
Alors, les Chinois, si vous voulez, pour vous raconter une petite anecdote, c'est que ils ont observé que le virus, quand il disparaissait, bon, les Chinois, vous les connaissez, ils sont quand même très drastiques dans les mesures. Donc, il fallait que les gens soient PCR négatifs, donc nasal, quand ils sortaient de l'hôpital. Mais ils s'étaient aperçus qu'on retrouvait encore
le
virus dans les selles.
Ouais.
Et donc, ils ont fait des prélèvements de selles aux patients, systématiquement, avant de les libérer dans la population chinoise. Donc effectivement,
c'est comme ça qu'on se rendait compte si le virus circulait ou pas d'ailleurs à un moment donné.
Bien sûr. Ouais. Et puis il y a eu les eaux usées aussi, qui est un paramètre d'ailleurs intéressant. Alors concernant la Covid, il y a une publication dans une revue de référence qui a montré que certains probiotiques en association étaient efficaces et réduisaient l'évolution de la Covid de 5 jours, c'est-à-dire que le patient, au lieu d'avoir des symptômes pendant 7 jours, il avait des symptômes pendant 2 jours. Il se trouve que ce probiotique existe puisqu'il a été commercialisé au départ pour autre chose. Hein, ça arrive dans la recherche et en médecine, c'est-à-dire qu'un produit, la pénicilline par exemple, rappelez-vous, il y a fort longtemps, et donc des produits commercialisés pour une indication X, en fait, se montrent efficaces pour autre chose. Et donc c'est le cas de cette association de probiotiques.
Sérendipité.
Donc c'est très intéressant. Alors c'est une publication pour le moment, donc il faut rester prudent, évidemment. Il ne s'agit pas de se jeter tout sur ce probiotique-là.
C'est pour ça qu'on n'en donnera pas le nom. Hein.
Voilà, c'est pour ça que je ne vais pas donner le nom commercial. Mais voilà, c'est très intéressant. Et ça prouve, encore une fois, le lien entre le microbiote et toutes les pathologies, notamment les infections.
Ce qui est important de préciser, c'est quand même qu'il y a autant de microbiotes que d'individus, quand même. Personne n'a le même... c'est presque une signature individuelle.
C'est une signature, hein, j'appelle ça la signature microbiotique. Hein, donc, tout comme vous avez une empreinte digitale, eh ben, vous avez une empreinte microbiotique, en fait. Puisque vous avez, en gros, il y a 1000 espèces dans notre tube digestif, à l'ensemble de l'humanité. Mmh. Et nous avons chacun... individuellement, une centaine d'espèces. D'accord ? Donc, si vous recombinez les sangs qu'on a ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Donc, si vous recombinez les sangs que vous prenez dans les 1000 à l'échelon de milliards d'individus, personne ne peut avoir les mêmes statistiquement. Faites le calcul, c'est impossible. Mmh. Et donc, ce qui fait que nous avons chacun une signature caractéristique. Et dans la révolution microbiotique du 21e siècle, on aura à la naissance, très probablement, l'étude de notre microbiote fécal et on aura une empreinte microbiotique, tout comme on a une empreinte digitale quand on fait notre pièce d'identité.
Même si on est par césarienne ?
Alors, par césarienne, c'est un autre problème, puisque quand l'enfant naît par césarienne, il ne récupère pas, évidemment, le microbiote de la maman, donc il va mettre plusieurs années à acquérir son microbiote quasi définitif, donc en gros 3-4 ans. Donc en cas de... puisque vous me poussez dans le futur...
Non, c'est pour ça, parce que vous disiez à la naissance, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ceux qui naissaient par césarienne ne bénéficiaient pas, n'héritaient pas du microbiote de leur maman.
De fait, donc du coup, ils vont fabriquer leur microbiote intestinal à partir des bactéries qu'ils vont récupérer sur la peau. La peau de la maman, la tétée, le biberon, etc. Et donc, ça va être plus longtemps, évidemment, puisque si vous passez par voie basse, vous récupérez tout de suite. Par la peau, ben, ça va mettre des années. Et donc, à ce moment-là, par exemple, si quelqu'un naît par césarienne, ça voudrait dire qu'il faudra lui faire son étude de microbiote fécale à l'âge de 4 ans, lorsqu'il sera établi.
Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 10 fois plus de bactéries dans notre intestin que de cellules dans notre corps. Voilà, c'est pourquoi on a tellement de bactéries. Et c'est vrai que quand on parle de bactéries, on a l'impression que c'est des microbes, que c'est des ennemis en fait.
Pourquoi ? Parce que c'est le patron du corps humain, comme je le dis. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire médicale récente nous montre que le corps de notre santé et le cœur de notre santé, c'est nos bactéries. Et que on pensait que le cerveau, le système nerveux central, c'était lui qui dirigeait les choses, qui dirigeait nos sensations, nos maladies, etc. Par exemple, quelqu'un qui est stressé chronique ou déprimé va développer plus de maladies, hein, d'une façon générale. Ben en fait, oui, mais c'est pas le point de départ, il n'est pas dans le système nerveux central, il est dans l'intestin. Mmh. C'est lui le patron, c'est lui qui va envoyer les infos au cerveau et qui va le déprimer, en fait, lorsqu'il est en dysbiose. Donc c'est fascinant, et c'est pour ça qu'il y en a autant, parce que c'est parce que elles ont des fonctions extrêmement importantes, donc métaboliques, elles fabriquent des substances, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc les fameux postbiotiques. Il y a cette fonction de barrière, c'est-à-dire ça va empêcher les substances toxiques de passer. Ça va être un vecteur d'immunité capital, puisque je vous rappelle que 60% de nos cellules de l'immunité sont dans notre intestin.
60%.
Donc 60%, ouais. C'est-à-dire plus de la moitié, c'est dans l'intestin de nos cellules de l'immunité. Et elles sont en connexion permanente avec notre sang et informent notre sang de la situation. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y en a autant, parce qu'en fait, bah, c'est le cœur de notre santé et de notre corps, finalement.
Il y a une pathologie qui, dont on parle beaucoup. Alors, est-ce qu'on en parle beaucoup parce qu'il y en a beaucoup plus ou parce qu'on a beaucoup plus d'informations dessus? C'est la NASH. Quelles sont les souches, puisque vous en parlez dans votre livre, qui ont montré leur efficacité contre la NASH, puisque beaucoup d'auditeurs, et ça, je peux vous assurer que c'est une question qui revient souvent, docteur Bérébi, c'est de savoir si la NASH est réversible.
Alors, c'est une très bonne question. Donc, quand on va poser un diagnostic de NASH avec des critères très précis sur le plan prise de sang, échographie. Donc on va faire systématiquement une échographie avec ce qu'on appelle un fibroscan, c'est-à-dire on va mesurer la fibrose du foie, c'est-à-dire la dureté. Si on est au début de l'évolution, ça va être réversible. Évidemment, si on arrive trop tard et que le foie est devenu dur, là, ça sera, et qu'on est au stade de cirrhose, là, ça reviendra pas en arrière. Mais c'est pas la majorité. Donc faut être optimiste et positif. Donc une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, le but, ça va être d'empêcher justement que cette NASH n'évolue et n'aboutisse au développement d'une fibrose évoluée. Et on a des moyens thérapeutiques, parce que souvent, les patients viennent me voir en disant « on m'a dit qu'il n'y avait rien à faire, à part maigrir ».
C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Perdre 10% du poids, ou sinon, il n'y a rien à faire.
Voilà. Alors, c'est faux. Il faut maigrir, bien sûr, donc on en a parlé tout à l'heure, avec les moyens alimentaires et autres, et puis les souches de probiotiques à FNI alvéi. Mais il y a des choses qui sont avérées bénéfiques contre la NASH, c'est la vitamine D. Donc c'est toujours très important de doser la vitamine D de départ pour voir s'il y a une carence. S'il y en a une, il faut recharger en quelque sorte le patient en vitamine D pour le remettre à un taux normal et après le laisser sous vitamine D. Je rappelle d'ailleurs au passage que les nouvelles recommandations, c'est de prendre une ampoule de vitamine D de 50 minutés tous les mois pendant les 6 mois d'hiver. Alors qu'avant on disait, vous prenez une ampoule tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Donc ça, c'est plus valable. Il y a une deuxième vitamine qui a montré un effet très intéressant, c'est la vitamine E, qu'on peut prendre donc
sous
forme de gélule.
La vitamine E.
Vitamine E.
On n'en parle jamais de cette vitamine-là.
On trouve ça dans, par exemple, les oléagineux, vous trouvez ça dans la noix de pécan, dans les amandes, d'accord, etc., par exemple. Donc la vitamine E en gélule également qui existe et qui est avérée utile. Et puis, les probiotiques et prébiotiques, là aussi, il y a un protocole dans mon livre de médecine microbiotique, donc de protocole microbiotique. Alors, il a été validé qu'en associant un prébiotique, en l'occurrence l'inuline, et une souche particulière de bactéries, eh ben, on améliorait les patients et on faisait abaisser le taux de fibrose.
L'inuline. Donc là, on peut.
L'inuline plus. Alors là, c'est symbiotique, c'est encore un autre mot.
D'accord, symbiotique, c'est parce qu'on associe.
Ouais. Prébiotique, probiotique. Dans la NASH, c'est comme ça. On va utiliser donc de l'inuline, qui est un prébiotique, et une souche de bactéries particulière. Et là, on a un effet sur la NASH. Donc, moralité de l'histoire, il y a des vraies choses à faire contre la NASH, contrairement à ce qu'on lit parfois.
Mais attention, là, on ne bricole pas. On va voir un spécialiste.
Bien sûr, bien sûr. Il ne s'agit pas, si vous voulez, de dire aux gens, soignez-vous tout seul. Il s'agit de dire, vous avez une pathologie, ce diagnostic doit être établi par un professionnel, donc, en l'occurrence, il faut que ce soit un hépato-gastro-entérologue, parce que la NASH, c'est une pathologie quand même très particulière, précise, avec des critères. Et après, il faut savoir que la médecine microbiotique existe. Alors, des fois, il faut dire la vérité. Tous les médecins ne sont pas au courant de ces possibilités thérapeutiques-là.
Oui, parce que c'est quand même très, très nouveau, là. Ouais.
Bien sûr, c'est très novateur. La médecine microbiotique, c'est très novateur. C'est moi qui ai créé le concept, d'ailleurs, de pouvoir soigner en régulant le microbiote. Et effectivement, même des collègues que je connais, qui sont des copains, etc., ne sont pas toujours au fait. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, ces notions diffusent par le biais des médias et diffusé aux patients, mais aussi évidemment aux médecins.
Et après, il faut former les médecins.
Exactement.
Vous avez dit trop vite le nom de la souche pour le ventre plat.
Alors, Aphnia alvei, hein, pour maigrir.
Aphnia alvei, d'accord.
H-A-F-N-I-A, alvei, A-L-V-E-I, Aphnia alvei.
Je voudrais terminer, parce que vous en parlez dans votre livre, la souche pour ceux qui vont aller voyager, puisque maintenant les avions repartent, pour la tourista.
Voilà, alors la tourista...
Il y a une souche particulière pour la tourista.
Tout à fait. Alors, la tourista, vous pouvez prendre du Lactobacillus rhamnosus, et puis Saccharomyces boulardii, donc c'est le fameux ultra-levure. Et si vous partez dans des zones, alors bon, si vous allez en Europe, faut pas le prendre, mais si vous allez dans les pays très exotiques, vous commencez à prendre l'ultra-levure plusieurs jours avant le départ, et vous en prenez pendant tout votre séjour, une gélule par jour. Et puis, je mets dans le livre aussi, vous savez, la tourista, c'est tellement fréquent, l'ordonnance type à apporter. C'est-à-dire que, voilà, si j'ai la tourista malgré tout là-bas, que je me retrouve pas dans les soucis.
Non,
j'ai sous la main ce qu'il faut.
On a sa petite trousse de santé.
Exactement.
En prévention. Mais c'est vrai que quand on part une semaine et qu'on peut pas se faire gâcher ses vacances ou parce qu'on est dans un moment très particulier, vaut mieux prévenir que guérir,
voilà,
comme on dit.
Exactement. Hein, donc ça... prévenir et aussi emporter l'ordonnance type.
Bon, vous réécoutez cette émission en podcast, comme ça vous pourrez noter tous les noms. Vous pouvez revoir la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Je rappelle le titre du livre du docteur William Bérébi, médecine microbiotique, votre nouvelle ordonnance pour être en bonne santé. L'éditeur, c'est Marabout. Merci Doc d'avoir été avec nous.
Merci
ce matin. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.